Chapitre 3. Les séances. L'engouement pour les tables à Marine Terrasse. Les opérateurs. Les exigences de la table. Les esprits. Polyglotte et polygraphe. André Chénier. Échille. Madame de Girardin quitta Jersey le 13 ou le 14 septembre 1853. Mais son départ ne refroidit pas à Marine Terrasse la passion des tables tournantes. On s'y précipitait vers le mystère avec une ardeur de néophyte. On n'attendait plus le soir, avoue Auguste Vaquery. Dès midi, on commençait, et l'on ne finissait que le matin. On s'interrompait tout au plus pour dîner. Le bruit de la mer se mêlait à ces dialogues, dont le mystère s'augmentait de l'hiver, de la nuit, de la tempête, de l'isolement. Personnellement, Victor Hugo n'avait aucune action sur la table. Assis dans un coin du salon, il ne la touchait pas, mais il l'interrogeait. Charles Hugo servait ordinairement de médium et posait les questions. Comme il fallait être deux pour tenir la table, c'était le plus souvent Madame Victor Hugo qui assistait son fils. Parmi les plus assidus aux séances, il faut noter Auguste Vaquery, Mademoiselle Adèle Hugo, les proscrits Guérin, les Guével, Alix, Kessler. Ce dernier, aussi peu enclin que possible à la croyance aux tables, le révolutionnaire hongrois Teleki et le général Leflot, qui était royaliste et catholique. Les esprits ne se laissaient pas vaincre en émulation. Il leur arrivait maintenant de relancer les opérateurs. Charles se plaint parfois de lassitude. Il est 11 heures du soir, il a fait des armes toute la journée, il voudrait bien se coucher, mais la table proteste, le réprimande, prétend continuer. Charles se résigne, en bon garçon qui ne veut contrarier personne, pas même un esprit. La table avait même des accès de colère. « Je me suis fait insulter plus d'une fois, » écrit Vaquery, « pour lui avoir parlé avec irrévérence, et j'avoue que je n'étais pas très tranquille avant d'avoir obtenu mon pardon. » Avec cela, exigeante, il lui arrivait de vouloir qu'on l'interrogeât en vers, quitte à répondre elle-même en vers, et on lui obéissait. Elle n'obéissait pas nécessairement elle-même. Elle se révélait capricieuse, et fantasque, et têtue. Un jour, ou plutôt une nuit, le 10 février 1854, Molière, qui animait la table, eut la fantaisie de se faire interroger en vers. Pendant une suspension de la séance, Victor Hugo a donc préparé une demande versifiée, petit complément en vers, fort bien tourné ma foi, où il décerne à Molière de l'astre et de l'archange. De l'archange. Mais allez donc corrompre un esprit. La monnaie de cour, toute puissante auprès des humains, n'a pas cours dans l'outre-tombe. Molière refuse d'accorder à ce prix l'audience qu'on lui demande. C'est l'ombre du sépulcre qui répond en son lieu, ou plutôt, qui refuse de répondre à sa place. Elle se tait en 8 vers. Elle reçoit le poète comme on congédie. Elle l'accompagne de 2 strophes hautaines, presque insultantes, par quoi elle commente et aggrave son silence. Victor Hugo à Molière. Toi qui du vieux Shakespeare a ramassé le ceste, toi qui près d'Othello sculpta le sombre Alceste, astre qui resplendit sur un double horizon, poète au Louvre, archange au ciel, ô grand Molière, ta visite splendide honore ma maison. Me tendras-tu là-haut ta main hospitalière, que la fosse pour moi s'ouvre dans le gazon, que je vois sans peur la tombe aux ombres éternelles, car je sais que le corps y trouve une prison, mais que l'âme y trouve des ailes. L'ombre du sépulcre et non Molière. Esprit qui veut savoir le secret des ténèbres et qui, tenant en main le terrestre flambeau, vient, furtif, à tâtons, dans nos ombres funèbres, crocheter l'immense tombeau. Rentre dans ton silence et souffle tes chandelles. Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors. L'œil vivant ne lit pas les choses éternelles par-dessus l'épaule des morts. Un autre soir, le 12 juin 1854, un jeune Anglais, M. Pinson, qui se trouvait à la Marine Terrasse, voulut interroger un de ses compatriotes, Byron. Lord Byron refusa de parler français. On insista, rien n'y fit. On eut beau lui représenter que ni Charles ni Victor Hugo présents à la séance ne connaissaient l'anglais, il garda un silence rogue, prémédité. Il fit seulement répondre par Walter Scott qu'il était mort. Ne tourmentez pas le barde, sa lyre est brisée. Son dernier chant est chanté, sa dernière parole est dite. C'était le mort sans phrase, mais non sans humour. l'humour britannique. Nous sommes à Jersey. Les esprits le savent. Ils s'adaptent au milieu. Nous citerons bien d'autres traits de leur souplesse. Une foule bigarrée d'invités répondait à l'appel des évocateurs. Chateaubriand, Dante, Racine, Marat, Charlotte Corday, Robespierre, Hannibal, Moïse, André Chénier, Tirté, Mahomet, Jacob, Shakespeare, Luther, Eschyle, Molière, Aristophane, Anacreon, Byron, Walter Scott, Galilée, Jésus-Christ, Platon, Isaïe. Ces illustres défunts se rencontraient autour de tables avec des animaux fameux. La colombe de l'Arche, par exemple, l'ânesse de Balaam, qui suggéra au poète de la légende la pièce intitulée « Dieu invisible au philosophe », ou encore le lion d'Androclès, à qui Victor Hugo lut gravement en guise de compliment la pièce qui porte ce titre dans la légende des siècles. Des anonymes envahissent aussi la table hospitalière, comme l'ombre du sépulcre, alias la bouche d'ombre des contemplations, ou la dame blanche de Lille, dont nous aurons à reparler bientôt parce qu'elle faisait parler d'elle dans la maison. Même de pures abstractions fréquentaient à Marine Terrasse. L'idée, la mort, le drame, le roman, la poésie, la critique, la blague. Elles avaient leurs heures. Elles se présentaient de préférence le jour, tandis que les morts venaient la nuit. Si le mot que l'on attribue à Le Flot est authentique, Louis XVI aurait pris rang dans cette liste glorieuse. Le spirituel général royaliste disait malicieusement « Je dois reconnaître que devant le roi, l'attitude de M. Victor Hugo a été parfaite. » Le parler des esprits n'était pas moins varié que leurs personnages. D'abord, étant polyglottes, ils emploient aussi volontiers la langue de Cicéron que celle de Walter Scott. Un soir, que la petite table d'acajou était en humeur de causer en latin, comme on lui demandait la fonction de l'homme sur la terre, elle répondit « Ede i ora », c'est-à-dire « mange, marche, prie ». Hugo, impressionné par cette formule sibylline, la recueillit le plus sérieusement du monde pour la faire graver plus tard sur une porte de Hauteville House, où l'on peut l'y voir aujourd'hui encore. Parmi les réponses d'Hannibal, je révèle plusieurs lignes de latin. Vous me direz que l'on se fut plutôt attendu à le voir parler carthaginois. Mais c'est qu'il parle aussi carthaginois, seulement il n'abuse pas de sa langue maternelle, et il traduit pour les oreilles profanes. Bocamor, en latin sol, Derimos, en latin luna, Jarimis, en latin dies, Mosomba, en latin nox. Séance du 8 décembre 1853. Ces esprits polyglottes sont surtout polygraphes. Littérature, politique, philosophie, tous les sujets y passent. Les grands discours philosophiques de l'ombre du sépulcre voisinent avec les clairons de Tirté, avec les pipeaux d'André Chénier. L'œuvre dictée par André Chénier est particulièrement intéressante et les circonstances dans lesquelles il dicte ses vers posthumes ont de quoi intriguer les sceptiques. Le vendredi soir 9 décembre 1853, on vit en effet se renouveler à Jersey l'expérience fameuse du pape Jules II, un fervent des tables, selon la chronique, obtenant qu'Homer reprit la lyre pour ajouter un chant à l'Iliade. La séance a lieu chez les Guével, et non à Marine Terrasse. Victor Hugo n'y assiste pas. Au début, Socrate occupe quelques instants le trépied. Mais soudain, une agitation anormale de la table avertit l'assemblée qu'il se passe quelque chose d'insolite. « Qui est là ?» demande Charles Hugo. Réponse, André Chénier. On sait que de nombreuses pièces de ce poète sont demeurées inachevées. Durieux, l'un des proscrits qui assiste à la séance, trouve que l'occasion est excellente, tandis que l'on a Chénier sous la main, de lui demander d'achever quelques pièces interrompues. Chénier veut bien. C'est ainsi que, sollicité de compléter le fragment de l'idylle 12, qui commence ainsi « Accours, jeune Chromis, je t'aime et je suis belle », il répond par une tirade, en vérité bien conforme à sa manière. Néère a le pied vif, mais Chromis est agile. Bois donc à Marilis est l'oiseau dans Virgile, etc. suivent six vers. D'autres assistants, mis en appétit, expriment aussi leurs désirs. Les questions fusent. Il faut que Chénier, sur la demande de Guérin, termine sa dernière pièce interrompue par le bourreau. Il lui faut aussi reconstituer des parties intercalaires qui manquaient à son œuvre de vivant. Sans perdre la tête, le glorieux décapité se prête avec une parfaite bonne grâce à ses exigences diverses. Hugo, s'il eût été là, n'aurait certainement pas désavoué ses improvisations bucoliques, lui dont la muse ductile, se faisant à l'occasion musette, devait chanter le groupe des idylles et qui s'inspira si souvent de Théocrite et de Virgile. Mais Victor Hugo n'était pas là. Les discours du sombre Échille, traversés d'un souffle ésotérique, conviennent mieux à la majesté du trépied. Ce que dit le grand tragique, on ne le sait pas toujours au juste, mais il le dit magnifiquement. Il dit l'antique lutte de l'homme contre la fatalité, la défaite des grands champions de l'histoire. Échille, Shakespeare, Molière, la victoire enfin procurée par la mort libératrice. Morceau immense d'un mouvement superbe, auquel devait sûrement applaudir Victor Hugo, et qui achève, ou plutôt qui s'achemine, comme les propres tirades hugoliennes, vers le mot clausule toujours soigneusement préparé. L'indéniable beauté de ces vers avait frappé Sully Prudhomme. Nous citerons plus loin cette pièce d'Échille. La spécialité littéraire des tables de Jersey est donc de n'en pas avoir. Elle cultive pour les genres, comme aussi bien le faisait Hugo, et toutes les manières, la plus grave et la plus bouffonne. Ainsi, la blague débite des joyeusetés empruntées, si l'on peut dire, au répertoire du Gavroche des Misérables. Sa verve gamine fait un amusant contraste avec l'ennuyeuse gravité de ses voisins de table. Mais c'est déjà parler de l'esprit des esprits de Jersey. Nous traiterons à part ce sujet dans un des chapitres qui vont suivre.